UTMB 2022. Jour après jour, le Duc pose les pierres une après l'autre pour bâtir sa performance, son résultat. Alors voyons tous ensemble ce qu'il a effectué aujourd'hui pour aboutir à un succès certain le jour de la course.
Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour l'UTMB J-1, donc là ça y est. C'est le tout dernier podcast. Demain soir, je ne pourrai pas vous en enregistrer parce que je serai en train de faire une grande randonnée autour du Mont Blanc. Certains disent course à pied, c'est faux. C'est de la randonnée pédestre. UTMB J-1. Et je vais reprendre les questions d'Hervé Augoyard qui s'est fait plaisir et qui m'a rebalancé une petite mitraillette avec des questions sur la technicité du parcours. Comment appréhender les passages techniques ou dangereux d'un parcours ? Alors, c'est vrai que quand on ne reconnaît pas le parcours et qu'on arrive sur un sentier qu'on ne connaît pas, s'il est facile, on va vite, puis d'un coup on arrive sur un passage technique, faut freiner, on bloque un peu, c'est compliqué. Donc évidemment, je dirais, pour pas avoir de surprise, c'est toujours pareil, le mieux c'est de faire une reco quand on n'a jamais fait la course. Après, quand on a fait la course, moi j'ai fait 3 fois l'UTMB, je vais pas faire une reco, parce que je le connais par cœur le parcours, donc c'est pas très intéressant. Par contre, ceux qui sont jamais venus sur la course de l'UTMB, ils font une reco, et à ce moment-là, ils se rendent compte que la descente des pyramides calcaires, c'est compliqué, voilà, petites choses comme ça. Maintenant, une fois qu'on sait plus ou moins où ils sont, par exemple, en 2018, je me rends à Captone, je vois le profil de la course, puis il était pas... Il y avait des endroits, il y avait du plat et tout, je me dis, ça doit courir plus vite quand même. Et en fait, j'arrive à ces endroits plats, et qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de cailloux, c'est une plage de sable, voilà, merdique quoi le truc. Donc, je dirais que quand on prend le départ d'une course qu'on connaît pas, il faut être mentalement prêt à arriver à des endroits qu'on n'avait pas prévus, et se dire, ok, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, se calmer et le passer doucement. Parce que si t'arrives à des endroits non prévus, et que tu t'excites en faisant « Oh putain, mais ça fait chier, ce tronçon-là, il y a des cailloux partout !» ça marche pas trop, parce que tu vas t'énerver, tu vas perdre ton sang-froid, tu vas faire monter un peu les pulses, le stress, tout ça. Et c'est à ce moment-là où tu vas te blesser, où tu vas tomber, où tu vas trébucher sur un caillou. Donc je dirais qu'il faut être extrêmement zen. Comme je l'ai été lors de l'échappée belle 2020, donc je passe l'école, entre le kilomètre 20 et 60, c'est particulièrement dur. Je passe l'école, c'était déjà dur à la montée, je vois que derrière la descente c'est encore pire, tu sais même pas où poser les pieds. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soufflé, j'ai laissé le groupe de devant partir, puis voilà, je suis descendu à mon rythme. Je me suis dit le plus important c'est d'arriver vivant au plein air au kilomètre 67. Et après, si ça va bien, on pourra remonter un petit peu. Et j'avais pas tout à fait tort, j'aurais même sans doute fait un podium si j'avais pas eu très très mal aux pieds. Mais ça venait d'une préparation qui était pas très bonne pour les cailloux. Donc, de la zénitude. Ne jamais s'exciter, de toute façon quand on perd son sang-froid on fait jamais rien de bien. Être très zen sur le parcours si jamais on n'a pas pu le reconnaître. Alors après, que peut-on appeler un passage technique ou dangereux? Ça dépend vraiment du passé et du vécu du coureur. Voilà, il y en a certains, ils vont me dire, la plupart des gens vont me dire que l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'Ultra Tour du Mont Blanc, je ne sais plus ce que c'est l'acronyme, ils vont me dire que c'est très roulant, très très facile. C'est vrai, c'est des chemins qui sont pas trop escarpés quand même, globalement. Mais quelqu'un qui vient d'une région très plate, avec... quand c'est des chemins, il n'y a jamais de pierre dessus, il n'y a jamais de racines dessus. Tu vois, un Américain qui est souvent habitué à courir dans des pistes forestières, lui, quand il arrive, il juge que c'est une course de montagne avec une qualité technique relativement moyenne, pas facile, relativement moyenne. Alors il sera d'accord pour dire que c'est pas un énorme chantier, mais tu vois, il y a des gens, quand tu leur dis que c'est facile et roulant, ils disent « moi quand même, ça me fait pas mal de cailloux, racines, etc. » Alors on peut les citer, dès qu'il y a des passages avec pas mal de pierres, la descente du col des pyramides calcaires, il y a un kilomètre, c'est très très difficile de courir. Les racines, quand elles s'enchaînent, alors ça c'est toujours moins gros qu'une pierre, les racines, donc c'est moins gênant. Le souci c'est que quand on est en fin de course, il y a un chemin où il y a pas mal de racines, le pied il se pose pas à plat parce qu'il évite la racine ou parce qu'il mord dessus, et du coup si vous avez des petites ampoules, des petits échauffements, à ce moment-là ça va être particulièrement horrible. les racines en fin de course. Autre chose, avec la fatigue, notre foulée elle est moins aérienne, le pied il rase plus le sol, et il a tendance à buter dans les pierres et les racines. Donc là aussi, un secteur technique de début de parcours est pas... On ne le court pas pareil qu'un secteur technique de fin de parcours. Alors le névé, bon là globalement il faut éviter de courir dessus, parce que si on glisse, si c'est très raide, on peut descendre assez bas, voilà. La crête rocheuse, bah c'est pareil, hein, faut éviter de courir dessus, parce que si on se prend les pieds, on fait une chute, hein, là, bah, vous pouvez lire dans la revue Point de Côté, vous pouvez lire Hilary Girardi, qui est quand même tombé de plusieurs mètres de haut, qui s'est fait une très très grosse blessure. Les descentes très raides, alors les descentes très raides, moi je dirais pas que c'est technique, ça c'est un truc où moi je suis fort, parce que c'est un truc de bourrin en fait. Ton quadriceps se plie à plus de 90 degrés, avec un impact au sol du fait de ton poids dessus, ça casse toutes les fibres, et en fait, on est juste sur une résistance à la douleur. Donc là, je suis à l'aise. Voilà un peu pour les passages techniques et dangereux. Alors, pour s'y préparer, en fait, c'est très simple. Il faut en bouffer. Et c'est ce que je dis, par exemple, quand je suis allé à l'Échappée Belle en 2020, bah, moi, j'avais fait des sorties tout l'été, mais qui ressemblaient un peu à ce que je faisais tout au long de l'année. Donc, des sorties, on va dire, autour de Chambéry, un peu dans les Bauges. Du coup, assez peu de cailloux, voilà, des chemins plutôt bien orientés, qui ressemblent à un UTMB un poil plus technique, on va dire, et pas du tout préparé pour l'échappée belle. Et en fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? L'échappée belle, c'est quoi ? C'est marcher dans des pierriers. Là, il aurait fallu qu'en juin et en juillet, j'abandonne toute notion de course à pied, et que j'aille me baffrer des journées de 10 heures de marche dans les pierriers, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, bah, votre cerveau comprend. Alors, chez certains, ça va se passer plus ou moins vite. Hein. Voilà, moi, je pense que je ne suis pas exceptionnel dans ce domaine, donc je ne vais malheureusement jamais être un très grand descendeur dans le technique. Mais ce n'est pas parce qu'on est nul qu'on ne peut pas s'améliorer, loin de là. Donc, avec une vraie bonne préparation, c'est-à-dire essayer de s'entraîner dans un coin qui correspond bien à la course. Le gars qui, l'an prochain, va faire la Western States, bah, il va falloir qu'il fasse énormément de routes, de pistes forestières. Il va falloir qu'il fasse du dénivelé en début de sortie et après qu'il fasse des grands bouts droits à plat pour coller à la course, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien aller à Tignes avant l'UTMB, c'est que les chemins autour de Tignes sont relativement simples et ça correspond pas mal à l'UTMB en termes de technicité et de pourcentage. Donc voilà, ouais, mon petit Hervé, il faut coller au terrain, en fait. Quand tu t'engages sur une épreuve, il faut essayer de comprendre à quelle sauce tu vas être mangé et t'y préparer le mieux possible en pratiquant le truc, quoi. Mais jamais en allant dans l'extrême, hein, bien entendu. Donc Hervé me disait qu'il avait participé à un stage de trail où le guide de montagne lui a appris les techniques avec et sans bâton. Pour faire quoi ? En cas de dévissage et de glissade sur névé. Ouais, en fait, tu peux te servir de ton bâton, bah, comme piolet. Il faut aussi savoir que s'il y a un problème, il faut abandonner ton bâton, hein, ta vie est plus précieuse que le bâton. Ouais, il y a des petits tips, hein, comme ça. C'est pour ça que les guides de haute montagne, ils sont loin d'être cons, hein, même s'ils pratiquent pas forcément la course à pied. Ouais, c'est eux qui t'apprennent aussi à gérer les situations de froid, de vent, de pluie. Parce que mine de rien, c'est pas parce que t'as une veste dans ton sac, une veste de pluie, que tu vas bien savoir t'en servir et qu'elle est de bonne qualité aussi. Et la veste de pluie, si tu la mets alors que ça fait déjà une heure que tu prends la pluie et que t'es trempé, c'est très peu utile. Alors que si dès les premières gouttes qui tombent, tu mets ta veste pour pas être mouillé et du coup tu restes un peu sec dessous, tu vas vachement gagner en confort. Pareil avec les gants, si tu mets les gants alors que t'as déjà froid aux mains, bah c'est mieux que rien, mais enfin bon, globalement c'est foutu, hein. Tu vas perdre de l'agilité dans les mains et ça va être délicat de manger ceci, cela, quoi. As-tu des types de passages que tu redoutes ou appréhendes ? Bah, tout ce qu'il y a des pierres. Moi, en gros, si tu veux, je stresse énormément. J'ai conscience du danger, c'est-à-dire à chaque fois que je pose mes pieds pour courir, voilà, je sais qu'il y a quand même pas mal de cailloux autour. Si je bute dedans, si je bascule sur l'avant, je peux taper la tête, je peux taper le genou, je me suis déjà cassé la rotule, donc je sais comment ça arrive. Donc globalement, si tu veux, moi je vais essayer d'être un maximum concentré tout le long du parcours, parce que n'importe quelle petite aspérité peut se révéler être un problème. Après, les passages particulièrement casse-couilles, ça va être la descente du col des Pyramides calcaires, ça va être la section de 2-3 km entre le col de la Croix du Bonhomme et le refuge du col de la Croix du Bonhomme. La montée de tête au vent. Bon, après, c'est à la montée, donc on s'en fiche un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, la descente de tête au vent est quand même particulièrement technique. Le début de la descente sur Chamonix. Voilà, en gros, ce que j'appréhende. Que dire de plus ? Ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors sinon, il y a Alban Berson, qui est dans le logement avec moi. Tu veux dire quelques mots, Alban ? Pour nous parler de ta course ? C'est le podcast journalier. Okay. Comment tu l'abordes ? Je sais que tu as les mêmes temps de passage que moi, que tu as établi avec ton coach Adrien.
Oui, moi je serais content de faire moins de 24. Après, Adrien part sur 23 heures environ, on verra
ton
bien.
Ton coach, hein ?
Mon coach, ouais. Adrien Séguré, ouais. Mon coach, ouais, qui...
Qui connaît bien, hein, quand même.
Qui connaît bien et avec qui je suis depuis un an et demi. Donc, la TDS, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Donc là, il y a un programme qui est plus construit. Et voilà, là. Et là, cette année, je n'ai pas fait une saison en restauration. Donc, j'ai plus de repos que sur la TDS. Où la TDS, j'étais vraiment arrivé fracassé. Donc voilà, ouais.
Ah, mais pourtant, tu avais fait 4e.
Exactement, ouais. Mais ouais, avec peu de repos, je ne pensais pas faire une 4e place et du coup belle surprise et vraiment satisfait.
Donc, t'étais vachement remonté parce que t'es parti des Contamines, t'étais même pas dans le top 5.
Je devais être 15e, un truc comme ça.
Ouais. Des Contamines
un peu à la Ludo... Non, pas des Contamines, pardon, de Courmayeur. Ouais. Je devais être 15e et
je crois que t'étais
au Contamines, je devais être 7 et j'en reprends 2 sur le col du tricot, un Espagnol et un Américain. Et je finis 4 et voilà, ouais, trop content.
Ouais. Ouais. Juste derrière Arthur qui sera avec nous aussi.
Exactement, ouais.
Ouais. Donc on devrait être une bonne bande hein, dans les
ouais, on devrait
dans les 3h05 au Contamine. Voilà, on devrait passer pas loin les uns des autres. Alors après, on se voit pas forcément parce que des fois, juste une minute d'écart, on se voit pas.
Ouais.
Mais voilà. Donc tu dis, cette année, t'es plus reposé au départ.
Ouais, beaucoup plus reposé. Hein. Déjà, j'ai eu une semaine de vacances. L'année dernière, j'avais arrêté la saison 2 jours avant la TDS.
Ouais.
Là, j'ai eu une semaine et. Et c'était un boulot bien pépère à faire de l'accueil des touristes. Mmh. Contrairement à une saison en cuisine où tu cours partout.
Ah, et puis t'es debout quoi. T'es debout toute la journée.
T'es debout à piétiner.
C'est quoi, 10 heures par jour.
Avec des charges, à courir partout. C'est toujours la course. Hein. À commencer le matin à 8h et puis à finir à 21h avec une coupure quand même. Et ça fait une amplitude horaire qui est assez longue. Et voilà quoi. C'est pas trop reposant. Donc plus confiant.
Ouais, bah, cette année tu vas.
On verra demain.
Tiens, pour te rassurer, j'ai revu un mot de l'orga, pas d'orage.
Pas d'orage ? Ah, super.
Donc voilà, même si on se fait saucer, pour eux, il n'y a pas de souci.
Ouais.
Pas d'orage et très peu de vent.
Peut-être les pyramides qui vont sauter, mais ce serait bien qu'ils ne sautent pas. Et avoir
décision à 6h vendredi matin.
Ok, voilà. D'accord.
Après, ils sont partis sur le balisage et c'est foutu.
Ouais, ok.
Et puis on a, merci Alban, on a Aubin aussi qui fait la CCC. Il est où Aubin ? Il est aux toilettes. Ah, mais t'as... Putain, t'as une salle de bain dans ta chambre, toi aussi ?
Oui.
Alors, Altra nous loue un... Ah, mais t'as pas de baignoire, par contre. Altra nous loue un super logement, hein, je les remercie, quand même. Aubin, sur la CCC, parce que l'an passé, il a lamentablement abandonné à l'UTMB, sous la huée du public. En plus, Aubin, t'es dans le film de l'UTMB, hein, notamment d'un abandon.
Ah, putain, j'ai pas vu.
Ouais, si, t'es dans la voiture, tu baisses la tête. Alors, Aubin, pourquoi la CCC ? Parce que l'an passé, bah, t'as vécu une mauvaise saison. Mais cette année, depuis mai, ça va bien.
Alors en effet, l'an passé, j'ai un peu galéré, sauf dans le Beaufortin. Mais ça, c'est la maison, c'est différent, on est toujours bien là-bas.
Oui, mais tu voulais quand même arrêter au début de la course.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai failli abandonner au bout de 4 heures. Mais après, ça s'est bien passé. Et du coup, la CC cette année, c'est tout simplement parce que je me sentais pas prêt pour l'UTMB. J'avais pas envie de retourner sur un 100 miles après l'échec de l'an passé. Et bah, je sais que les courses entre 80 et 120, c'est quand même ce qui me réussit le mieux depuis le début. En dessous, c'est trop court, et au-dessus, bah, vu mon échec à l'UTMB, c'est trop long. Donc ouais, la CCC, c'était vraiment un palier avant de retourner sur l'UTMB l'an prochain, dès 2023.
Et oui, parce que t'as eu ta sélection au trail du Saint-Jacques.
Exactement, ouais, j'ai réussi à avoir déjà un ticket, en étant sûr d'avoir mon dossard, donc ça c'est cool, ça met une pression en moins déjà pour le reste.
Et depuis, t'as fait une belle course à Montreux, c'était une course de préparation, mais t'as quand même eu quoi, 830 en indice ?
J'ai plus l'indice exact en tête, mais oui, entre 820 et 830, ouais. Mmh. Avec un sacré temps, même si Clovis Chavreau nous a mis une belle branlée, franchement, c'était...
Et que tu vas retrouver à la CCC.
Exactement, ouais. Clovis qui sera aussi sur la CCC. S'il a la même forme, franchement, il va jouer devant. Hein. Bah, pas non plus avec Jonathan, mais...
Albon.
Albon, oui, exactement. Mais non, non, il y a... C'est impressionnant le plateau, quand même, sur toutes les courses de l'UTM, bien, ça remet à sa place.
Ah oui, alors on verra au départ de la CCC, mais au départ de l'OCC, il y a eu beaucoup de non-partants dans les élites. Et j'ai eu un message de l'UTMB comme quoi, dans le team The North Face, auquel appartient Jonathan Albon, il y a du cas Covid.
Ah ouais, bah toujours, hein. Il est toujours présent, l'air de rien, même s'il est beaucoup moins grave. Et... C'est vrai que ce serait gênant si... Enfin, moi, c'est ce qui me fait plaisir, en fait, de venir avec un tel plateau. Ça fait rêver de courir aux côtés de ces coureurs que, voilà, tout le reste de la saison, on les suit en regardant l'ordi.
Bah, tu seras un peu derrière, quand même.
Oui, mais sur la ligne, je serai avec, même si... Oui, je les verrai avec sur la ligne, mais...
Tu pourras lui dire bonjour.
Exactement, dans un anglais magnifique.
Profites-en, hein. Alors, c'est quoi l'objectif, Aubin et Albon? Il nous a dit qu'il allait mettre à peu près... en tout cas, si tout se passe bien, hein, c'est toujours pareil. On imagine que tout va bien se passer. Albon, voilà, il va descendre largement sous les 24 heures, peut-être se rapprocher des 23 heures jour de grâce. Et toi?
Alors, moi, je vise vraiment le moins de 12 heures. En plus, ce serait une déception, hein, faut pas s'en cacher. Donc, j'ai fait tout mon plan de bataille sur les 12 heures. Avec, voilà, au mieux, je pense, 11h30. En dessous, j'ai... Ce serait vraiment un jour exceptionnel, parce que pour moi, j'ai pas le niveau pour être en dessous d'11h30. Mais ouais, j'ai tablé du 11h45-12h, quoi. En prenant les temps de Peter Van Der Zonde de l'an passé.
Ah.
Donc j'ai fait un copier-coller, hein, tout bête, comme un escroc. Parce qu'il était parti doucement, et moi, je suis comme ça, je pars doucement.
Et
c'est pas fait exprès.
Il a fini combien?
Il avait fini 16e, il me semble. En 11h51, quelque chose comme ça. 11h... Ouais, à peu près 11h50. Et non, il était parti, je crois, 46 au premier passage. Et encore, ça, je pense que ça a enlevé les abandons d'après. Donc en réalité, il devait être bien plus loin que ça au premier pointage. Et ouais, c'est vraiment ce que j'aime. J'ai regardé ses temps, c'était le mieux pour moi dans tous ceux qui sont dans le temps que je vise. Parce que sinon, il y en a beaucoup qui sont partis fort pour exploser à la fin. Et ça, j'ai pas envie.
Ah non, parce que ça va créer tous les problèmes, bah, que tu as vu, par exemple... À l'UTMB l'an passé, c'est-à-dire tu pars trop vite, tu grilles le stock de glycogène, et derrière, très très mauvaise sensation, et du coup, après, bah, la tête n'y est plus. Donc Peter Van Der Zonde, c'est un peu ta Courtenay de Walter à nous sur l'UTMB, quoi.
Exactement, ouais. C'est vrai que sinon, partir doucement, ça, j'y arrive, hein, c'est
classique.
Et
Peter
classique.
Sera là cette année.
Ah, il y a Peter. Ah, bah voilà, je vais m'accrocher à lui, c'est réglé.
Il est grand, habillé en cas.
Non, ce qu'il faut que j'évite, c'est en général, au bout de 3-4 heures, c'est là où je suis bien.
Ouais.
Et je fais n'importe quoi, chaque fois. Donc, faut vraiment que je réussisse à me calmer 3-4 heures. Ça fait quoi vers le Grand Col Ferret? Donc,
ouais,
ne pas descendre. Ouais, ni le monter au seuil, ni le descendre au seuil non plus. Il faudrait être calme.
Et parce qu'après, il y a la section de plat à la Fouly, qu'il va falloir bien gérer jusqu'à Prat-Fort. Et au moment où tu vas remonter à Champais, là, ça y est, tu pourras te mettre dans la course.
Ouais, bah la section de plat, c'est un peu ce qui me fait peur. Hein. C'est quand même pas mon point fort, puis c'est pas ce que je préfère.
Eh oui, mais au Trail du Saint-Jacques, regarde, t'as fait une bonne performance.
Oui. Oui, c'est vrai, mais je me faisais pas plaisir quand même, je souffrais beaucoup sur le parc. Mais j'ai hâte d'arriver à Champais, et là, ouais. C'est les montagnes russes, et moi, j'attends que ça. Sortir les bâtons, marcher bêtement, j'adore.
Ouais. Et oui, après, c'est une partie de parcours où seul Thibaut Garivier a tout couru, l'animal. En plus, bah, la CCC, c'est la même ambiance que l'UTMB. Voilà, nous, à l'UTMB, il y a Pocapel qui nous a dit qu'il a été là pour mettre moins de 20 heures. Bon, évidemment, c'est toujours sympathique à entendre dès le début. Vous avez Aiden Hooks qui a dit qu'il allait mettre moins de 10 heures, alors que le record, c'est Thibaut Garivier en 10h20. Donc, c'est intéressant. Je pense qu'on va être sur un départ vraiment, vraiment en souplesse. Jonathan Albon, qui, évidemment, n'étant pas habitué à voir des gens devant lui, va sans doute emboîter le pas. Puis, j'imagine toute une tripotée derrière, comme nous, hein, avec les Zach Miller, tout ça, là. Donc ça, tu laisseras partir.
Ah ouais, non, mais de toute façon, je pense qu'au bout d'un kilomètre, je les vois même plus. Et c'est vrai que ça va être n'importe quoi, parce que j'avais pas entendu Aiden Hooks qui avait dit ça moins de 10 heures. Mais ouais, faut qu'il fasse gaffe, parce que s'il arrive trop tôt, il y a l'UTMB qui part quand même. Il va être gêné dans les rues de Chamonix à contresens.
Et c'est arrivé une année, c'est Toffol Castaner qui avait remporté la CCC. Et à cause des mauvaises conditions météorologiques, le parcours avait été trompé. Du coup, il était arrivé à 17h45, juste avant que l'UTMB passe. Ils avaient fait reculer les premières lignes d'élite, enfin tout le monde même d'ailleurs, pour que Toffol puisse passer physiquement la ligne et que les photographes puissent le prendre en photo. Voilà, bah merci Aubin, et puis tu vas nous occuper toute la matinée pour suivre ta course, pendant que nous on sera en slip sur le canapé à rien faire.
Exactement.
Voilà, Alban qui mange, une fois de plus, il recharge à mort. À mort. Il vient de me dire une douche, une pipe et au lit. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? À part bien rigoler, on avait la conférence de presse Altra avec Alban. Enfin, moi, je sais pas, j'étais pas sur le PowerPoint. Alors, j'étais peut-être pas invité, mais j'y suis allé quand même. Et on a pu retrouver notre idole vivante, Robert Heinal. Notre Italien préféré, Francesco Cucco, qui va partir un peu fort. Hein. Francesco, il m'inquiète un peu. Amanda Basham, bah, qui est jeune maman et qui du coup avait juste fait la course de 15 km à Courmayeur, sinon je crois qu'elle ambitionnait au CC. Donc voilà, c'était la petite conférence de presse ce matin à 11h à Caltrac. On fait ça bien, ils ont réservé un bar à vin, il y avait un apéritif pour les journalistes, ceux qui voulaient venir voir et tout. Très 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 bien organisé. J'ai pu rencontrer enfin le créateur de la marque, Brian, qui est quelqu'un d'hyperactif, très très chaud, qui adore Chamonix. Le mec doit apprécier l'UTMB encore plus que moi. Sachez qu'il l'a fait en 2015 en plus, l'animal. Et il a mis 38 heures, ce qui est tout à fait honorable. Donc voilà, très, très sympathique. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'intéressant? Que la marque en fait prenait de l'ampleur chaque année. Son chiffre d'affaires grandissait, donc voilà, même si ça reste un petit pousset par rapport à Salomon ou Oka. Et bah, la marque Altra prend de l'ampleur. J'ai appris un truc intéressant aussi, c'est que toutes les chaussures n'étaient pas de la même largeur. Et en fait, c'est marrant parce que instinctivement, je me sens très très bien dans la Lone Peak et dans l'Olympus. Et ce sont les plus larges. Après, il y en a d'autres avec les tiges. Enfin, après, toute la gamme est un peu en middle large, par exemple. Et puis, il y en a quelques-unes vraiment plus fines. C'est celles que j'aime pas trop. La Rivera sur route et la Vanish. Voilà, enfin bref. Donc, c'était très sympa. Petit run avec Baou juste avant. Donc là, j'avais des sensations qui étaient totalement exécrables, que je n'ai presque jamais ressenties. Donc, ça m'a fait très plaisir d'avoir les jambes aussi lourdes, j'étais vraiment très content. Du coup, à midi, massage. Je suis retourné ensuite sur le stand du Beaujolais Vert et de Baou, auprès desquels je m'étais engagé pour passer une bonne heure de temps sur chacun là dans l'après-midi, histoire de rencontrer un peu les gens, ce qui quand même fait plaisir aussi. Hein. C'est quand même le but aussi, c'est quand même de partager. Alors il faut mesurer tout ça, bien sûr, hein. On ne peut pas passer 3 jours sur les stands, mais y aller une demi-journée, voilà. Et quand je suis rentré, je suis allé me rafraîchir un peu dans le jacuzzi. J'y ai passé une vingtaine de minutes, pas d'excès, juste pour se détendre. Et après, je me suis étiré assez longtemps, c'est vrai. Parce que j'avais les ischio-jambiers vraiment très raides. Et tu vois là, du coup, ça va mieux, je me sens mieux. Donc demain matin, il faudra que j'aille chercher mon dossard. Parce qu'évidemment, j'ai oublié de le faire aujourd'hui. Donc il faudra que je fasse attention quand même. Il ne faudra pas que j'oublie d'aller chercher mon dossard. J'ai la petite photo à faire avec Alexis Berg, une photo avant la course, une photo après. Et évidemment, sur la route, il faut que j'achète des sushis. Donc il y a un magasin pas loin du village là pour acheter les petits sushis. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je remercie quand même l'ensemble des patriotes pour la sympathie de leurs commentaires tout au long de ce podcast journalier, qui est finalement une aventure hein, pour amener jusqu'au départ de l'UTMB. C'est maintenant chose faite. Donc celles et ceux qui ont pris l'aventure en cours de route sur Patreon, vous êtes venus parce que vous avez vu un peu de la lumière, vous avez été attirés par les 30 derniers jours de préparation à l'UTMB. Voilà, il y a quasiment eu une centaine de Patreons en plus, passé de 400 à 500. Mais je vous invite à vous plonger sur le Google Drive, à aller regarder ce qu'on a fait dans le passé, les articles qui ont été écrits, la préparation de l'année dernière. Vous avez une foule de documents à consulter. Dès lundi, bien sûr, il y aura une revue de presse. Vu que j'aurai absolument rien à faire et que je pourrai pas bouger de ma chaise, je vous l'écrirai pendant 6 heures. Elle sera délivrée avec amour. Voilà. Participez aussi, hein, pensez-y au forum. Je pense que c'est vraiment la plus-value du Patreon. En fait, c'est vous mettre en relation vous-même parce que finalement, c'est sans doute très intéressant parce que tout le monde reste sur le Patreon globalement. Donc, c'est que mes articles vous plaisent, les revues de presse vous plaisent. Le podcast quotidien, bien sûr, vous plaît, parce que vous êtes des grands curieux, ce qui est un péché, hein, d'après Jésus-Christ, hein, mais bon, chacun s'arrangera avec sa conscience. Mais je pense que c'est encore plus intéressant le forum pour vous mettre en lien entre vous, parce que vous êtes plus ou moins des gens qui avaient les mêmes valeurs, et on va peut-être pas rajouter tout le monde sur le groupe WhatsApp parce que ça va être la merde, mais voilà, c'est vrai qu'il commence à se former un noyau dur de patriotes qu'on commence à voir et à revoir. Et bah les petits nouveaux, n'hésitez pas à intégrer ça en vous jetant à corps perdu sur le forum. Si vous avez un métier de bureau, c'est idéal, hein, comme ça vous allez pouvoir glander toute la journée. Comme tout le monde en fait. Allez, on finira sur cette touche d'humour. Demain, bah écoutez, vous ne m'aurez pas en audio, mais vous m'aurez sur le live trail pour la course. Sur ce, je vais me mettre dans mon lit et non pas dans mon bain. Salut.
Le podcast est à présent terminé et le Duc vous dit à demain si vous le voulez bien.